C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous. Nuno
Ramzaoui. Tom Villa.
Bonjour.
Il est beau, c'est Daniel Morin.
Merci la gueule.
Tout à l'heure, nous aurons en live Thomas Fersen et nos invités sont Chantal Latsou et Claude Lelouch.
Quel casting.
Tu vois. Tu ne voulais pas que Chantal revienne et pourtant Chantal est revenue.
C'est vrai que c'est mon genre de ne pas apprécier Chantal.
Tu sais, tu vas t'en prendre une.
Encore. Oh
là là. C'est votre fan numéro un, c'est pour ça que je partais dans cette ironie. Bienvenue en tout cas, merci mille fois d'être là. Comment allez-vous? Première question d'abord, Claude.
Par rapport à la moyenne des gens, très bien.
D'accord. Et vous, Chantal?
Très bien. Très
la politesse aurait voulu d'ailleurs que je commence par Chantal.
Il n'y a pas de problème, quoi.
C'est la première fois que vous travaillez ensemble tous les deux.
Oui.
La première fois. On va en parler évidemment de ce nouveau film de Claude Lelouch qui s'appelle Chacun sa vie. Est-ce que, enfin, vu votre regard, Tom Villa, j'ai un peu peur. Est-ce que vous avez compris pourquoi Chantal et Claude sont nos invités?
Évidemment, Nagui, parce que l'un est mythique et l'autre, c'est Claude Lelouch. Alors, non, vous venez nous parler de Chacun sa vie, donc votre dernier film, Claude, avec vous, Chantal Latsou, également Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday, Jean Dujardin, Antoine Duléry, Mathilde Seigné, Nadia Farès, Christophe Lambert, Raphaël Mizrahi, Gérard Darmon, Julie Ferrier, Stéphane Degros, Jean-Marie Bigard, Lola Bigard-Marois, Déborah François, Liane Folly, Francis Huster, Marianne Denicourt, Pauline Lefebvre, Ramzi Bedia, Michel Leeb, Vanessa Demouy, Philippe Lelouch, aucun lien de parenté d'ailleurs, Béatrice Dahl, Kenji Girac, William Lémergie, Samuel Benchetrit, Zindine Soualem, Rufus, Elsa Silberstein, Vincent Pérez. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci du fond du cœur d'être venu nous voir ce matin.
C'est impressionnant.
C'est vrai.
C'est plus un casting, c'est votre répertoire, Claude. Non, mais c'était quoi le projet? C'était foutre les boules.
C'est pas un casting, c'est un casse-tête.
Ah ouais, je peux venir, là, le but.
Ils ont tellement été merveilleux que ils ont simplifié tout ça au maximum. Moi, j'avais envie de faire un film en forme de fête et voilà, on a fait la fête ensemble.
Il y avait du monde.
C'était tellement joyeux, ce tournage.
Mais concluez.
Non, moi je pense que le but, c'est de foutre les boules à Xavier Dolan et de lui rappeler qui c'est qui le patron. Voilà, tout simplement. Alors, le pitch, on a 2 heures devant nous, Nagui, ou pas?
Comme vous voulez, on a 1h30.
Imaginez tous les comédiens qui écoutent et qui se disent, il m'a pas pris quand même. C'est ça le truc. Tous les gens, tous les comédiens qui l'ont pris et moi, non. Les gens me font la gueule, moi, dans la rue.
Le petit résumé en 2 secondes, en gros, c'est l'histoire de Johnny Hallyday qui a un problème de sosie. Qui fout le bordel, voilà, bon, il avait qu'à être Francis Lalanne, il aurait eu moins d'emmerdes. Alors, la technique de Claude Lelouch, quand il y a beaucoup de stars...
Rien compris au pitch, hein.
Mais vous le ferez après, vous démerderez. La technique de Claude Lelouch, c'est quand il y a beaucoup de stars, les personnages ont les prénoms de leurs acteurs. Samuel Benchetrit s'appelle Samuel, Stéphane Degros, Stéphane, Marianne Denicourt, Marianne, Nadia Farès, Nadia, Zindine Soualem, Zindine, et Mathilde Seigné, Mathilde, voilà, quel feignasse, Lelouch. Et puis, il y a aussi ceux qui jouent leur propre rôle.
Sauf que Johnny s'appelle Jean-Marie, c'est ça.
Bah non, il y a aussi ceux qui jouent leur propre rôle, voilà, Johnny joue Johnny, Kenji joue Kenji, Dupond-Moretti joue un homme de justice. Alors après, évidemment, c'est aussi de la fiction. Liane Folly, une chanteuse en fin de carrière, c'est un film, on le rappelle. Mais Claude Lelouch, c'est près de 50 films. Aujourd'hui, c'est Chacun sa vie, même si à la base, c'était un homme et une femme, ou un plus une, voire même pour les plus foufous, une pour toutes. Mais dans l'ensemble, il y a eu beaucoup d'amour avec des si. Bref, votre force, Claude Lelouch, c'est de savoir filmer les uns et les autres. Vous nous avez donné homme-femme mode d'emploi. Certains ont triché et on a crié « Attention bandit !» Du coup, on a vu une fille et des fusils. Et à cette vision, le voyou est parti. Même si, comme en politique, il y a le bon et les méchants, qui ont un peu joué au chat et à la souris. Mais en politique, il faut parfois partir pour revenir. Et comme l'aimerait-on les républicains en ce moment, avoir un autre homme, une autre chance. Il y a eu des fatalistes pour vivre, des Espagnols heureux qui criaient « Vive à la vie !» Hasard ou coïncidence, vous avez filmé les Parisiens, ce qu'on appelle parfois les misérables. Vous n'avez peur de rien, après tout, l'aventure, c'est l'aventure. Ils s'appelaient Edith et Marcel, ou même Robert et Robert, selon les quartiers. Mais au final, votre talent, c'est de savoir raconter LA belle histoire et nous montrer que ces amours-là, c'est toute une vie. Et souvent, ça conduit au mariage. Bref, tout ça, c'est un peu l'itinéraire d'un enfant gâté, gâté par la vie et le cinéma. Si c'était à refaire, j'espère que vous le referiez. Certaines critiques ont dit parfois « tout ça pour ça ». Mais si on devait résumer vos thèmes de prédiction, je dirais la vie, l'amour, la mort. Personnellement, vous êtes un homme qui me plaît. And now, ladies and gentlemen, on a juste envie de vous dire, Claude Lelouch, et désolé pour la vulgarité, mais salaud, on t'aime.
La bande originale, sur
France Inter.
Ouais, il a compris des trucs
ça
quand même.
ça finit mieux que ce que ça commence avec
Claude. Non, je suis très impressionné. Je savais pas que j'avais fait tous ces films.
Vous savez que vous avez fait Chacun sa vie ou pas? Parce que ce film-là sort en salle mercredi. On peut avoir le sentiment que c'est plein de petits films ou en tout cas plein de pitchs de films qui finissent par faire un grand film, puisque chaque histoire a sa place.
Oui, ce sont des histoires avec un début, un milieu, une fin. Ce sont des hommes, ce sont des femmes qui m'intéressent un peu plus que les autres parce que ils ont vraiment les qualités de leurs défauts, vraiment, vraiment. Et ce sont des personnages qui ont tous des jardins secrets, des casseroles. Ils sont pas bons bleus. Mais ce sont des hommes et des femmes qui essayent de s'en sortir dans le bordel actuel, dans le chaos actuel. Et comme je suis un fanatique du chaos, je crois vraiment à l'incroyable fertilité du chaos. J'ai voulu faire un film très optimiste dans une période qui voit tout en noir. Voilà.
Mais quand même, même si on ne voit pas très bien l'histoire en elle-même, parce que c'est vrai que si on cherche à raconter l'histoire en disant c'est l'histoire de différents êtres humains qui vont se retrouver à un tribunal pour décider du sort de l'un d'entre eux, on a le sentiment de voir des scènes, et peut-être même que vous avez cherché chaque fois que vous tourniez une scène à faire une scène culte du cinéma.
Je sais pas, j'ai pas cette prétention.
Vous avez quand même dit à chaque comédien le matin, on tourne la scène la plus importante aujourd'hui avec toi.
Mais je pense vraiment tous les matins quand j'arrive sur le plateau, j'ai envie de tourner la plus belle scène
du cinéma français.
Du cinéma de Paul Lelouch en tous les cas, de celui que je pratique et que j'aime. Mais c'est vrai que J'aime les acteurs et j'aime parce que ce sont des athlètes.
Également.
Et je sais qu'ils peuvent battre des records et c'est ces records que j'essaye de leur faire battre.
Voilà. Alors Chantal Latsou, c'est la première fois que vous rentrez dans la sphère Claude Lelouch au milieu de ce nombre. J'ai même pas calculé combien il y en avait, mais enfin énormément d'acteurs, d'actrices. Ça fait quoi d'être contacté par Claude Lelouch et de se retrouver devant sa caméra?
Il venait au théâtre parce qu'il se déplace au théâtre. Il adore le théâtre. Il vient le dimanche après-midi. Il adore ça parce que il aime ça. Depuis tout petit, il m'avait raconté et il m'avait dit un jour, je te trouverai un rôle dans un film.
Et vous avez vu dans Pot de Vache ?
Il m'avait vu aussi dans Les Amazones. Mm-hmm. Et il m'avait rencontré dans les loges, etc. Donc je crois que je lui plaisais depuis un certain temps.
C'est vrai.
Et puis j'attendais, je voyais qu'il faisait des films et ça ne venait pas.
Mais comme l'a dit Chantal,
il
vous a contacté. Et comme l'a dit Chantal, ceux qui ne sont pas dans le casting sont en droit de se poser des questions aussi quand on voit qu'il y a pléthore d'artistes et on se dit mais pourquoi pas moi ? Donc comment faire ? Parce que faire des choix, ça veut dire aussi refuser d'autres.
Oui, non, mais vous savez, je remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Enfin, j'ai construit ma vie là.
Donc il y a encore des gens qui vous disent non ?
Bien sûr, il y a des gens, des fois, qui ont peur. Mon cinéma peut faire peur à certaines personnes qui aiment bien être sûres de tout, qui viennent avec la ceinture de sécurité, alors que moi, je prends des gens sans parachute, sans rien. Je demande à mes comédiens de prendre des risques. Quand je suis allé voir Chantal, évidemment, elle m'interpelle depuis des années. Je savais bien qu'un jour, elle arriverait dans mon cinéma, dans l'univers. Et c'est vrai que, en fait, je lui ai proposé une histoire vraie, car... elle joue le rôle d'une contrôleuse fiscale.
Je ne suis pas contrôleuse fiscale dans la vie. Hein.
Effectivement, un jour, j'ai appris qu'un type a demandé en mariage sa contrôleuse fiscale pour échapper à l'amende colossale qui l'attendait. Et voilà. Et donc, j'ai trouvé que cette situation était formidable entre Michel Leeb et Chantal. Voilà. Et puis, surtout, Chantal, elle va fréquenter tous mes films maintenant.
Alors, dans votre cinéma, Claude Lelouch, vous provoquez des accidents avec tous vos comédiens sur scène. Et justement, Tom faisait remarquer que les prénoms des acteurs n'étaient pas changés. C'est-à-dire que quand vous les choisissez, vous leur demandez plus d'être eux-mêmes que d'incarner spécialement un personnage.
Tout à fait. Je crois beaucoup aux prénoms. Je crois vraiment à la force des prénoms. En plus, quand vous avez tant de comédiens, si vous dites Jean fait le rôle de Rémy, et là, ça me permet de m'y retrouver dans mon bordel. Et puis, c'est vrai fait que, bon, quand je vais voir un comédien, j'aime pas trop les rôles de composition. J'adore ça au théâtre, j'adore ça quand il y a une distance. Mais le cinéma, c'est le gros plan, c'est quand même les gros plans. Et j'aime bien qu'un coureur de 100 mètres, lui faire courir le 100 mètres et non pas le marathon. Voilà, donc je...
Mais vous dites aimer les comédiens, pourtant ce qu'aiment les comédiens, c'est créer des personnages, c'est pas être
oui, mais
en reportage.
Je leur propose de créer des personnages. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi je les considère comme des athlètes. Et j'ai envie de voir jusqu'où on peut les... C'est très difficile d'aller dire à De Funès, il ne faut pas faire du De Funès à Lino Ventura, de ne pas faire du Lino Ventura à Gabin. Les gens, s'ils vont voir Gabin, c'est pour voir Gabin. Je veux dire, à un moment donné, la voix de Chantal, c'est pas rien. Je veux dire que si on ne l'entend pas, il manque quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? On a tous un don, on a tous un don, et c'est ce don que les gens aiment et apprécient. Et quand on veut aller au-delà ou le contrarier, on a des retours de bâton qui ne sont pas efficaces. C'est déjà tellement difficile de bien faire ce qu'on sait faire, que c'est dans cette direction-là que je les pousse.
Il y a un contre-exemple dans le film, c'est justement Johnny qui joue le rôle de son propre sosie, et ça donne pour moi, avec tout le respect que je dois et l'admiration que j'ai pour Chantal, l'une des scènes culte, mais
c'est
alors
sûr,
là,
c'est magnifique.
Pas du film, mais
on
du
sait
cinéma.
Plus, on sait plus qui est Johnny.
Mais c'est génial.
C'est puis extraordinaire.
Surtout, il est tellement juste et drôle.
Oui,
je
pense que, en plus, avec les petits soucis qu'il a en ce moment, ça va lui faire du bien. Mais
il va bien d'ailleurs, vous avez.
Oui, il, c'est un combattant, il sait faire reculer les saloperies. Voilà.
Super. Bon, on l'embrasse.
Mais c'est vrai qu'il est absolument incroyable dans le film, et nous-mêmes, on était morts de rire pendant le tournage, donc on sentait bien qu'il se passait un truc.
Ah, il se passe un truc, clairement. Chacun sa vie, le nouveau Lelouch avec Chantal là-dessous. Alors, qu'est-ce que vous en gardez ? Parce que tout à l'heure, on était avec Chantal, la manière dont vous avez découvert, appris que vous feriez partie de cette épopée. Mais comment, après, vous avez géré ces 26 jours de tournage, ou peut-être même cette journée de tournage ? Parce que
non, moi,
finalement, vu le nombre...
J'ai eu 5 jours de tournage, mais c'était...
Dense.
Oui, parce qu'on restait entre les jours de tournage. C'était pas vraiment en bloc les jours.
D'accord.
Et il y avait un hôtel à Beaune, ça se tournait à Beaune, et il y avait la fête à l'hôtel, il y avait tous les matins, même si on tournait pas, on allait sur le plateau, parce qu'il y a, l'école, il n'y a pas une école, il y a un,
comment ça s'appelle,
l'atelier du cinéma. Et c'était un vrai plaisir d'aller à l'atelier du cinéma, même si j'avais pas de scène, j'écoutais ce qu'il disait aux autres comédiens, tous les matins à 8h30, rendez-vous à l'atelier, et là il expliquait ce qui allait se passer dans la journée. Et ça, on y allait par plaisir. On se levait tôt et on y allait, et on restait entre les jours de tournage. C'était un vrai plaisir, c'était la fête.
Chantal...
Moi, au début, j'arrivais un petit peu avec mes petits souliers. Je suis un petit peu débutante au cinéma. Donc, oui, mais j'ai pas fait beaucoup de films, j'ai fait des petits rôle du style tu prends une mousse au frigo, on t'a raté si tu veux, tu vois. Bon.
Vous étiez agressé, d'autres vous étiez.
Oui, mais il est tellement chaleureux et tellement, il est tellement cet amour du cinéma qui transmet et cette camaraderie il transmet une énorme camaraderie, ce qui fait que on n'a aucun problème avec les acteurs qu'on connaît pas vraiment. Je les avais pas, certains je les avais jamais rencontrés. Tout de suite, ça se passe très très bien.
Qui, par exemple, vous étiez contente de rencontrer qui?
Bah, Dupond-Moretti, j'avais jamais rencontré.
Oui, enfin,
il
n'est
pas acteur, mais
acteur,
il est très chaleureux. J'avais jamais rencontré. Pas vraiment du jardin, tout ça. Et il y a une espèce de camaraderie qui s'installe grâce à Claude.
Et de partage. Alors justement, on va parler de et de Dupond-Moretti et du partage. Parlons du partage puisque on est à Beaune, qui est l'un des personnages du film. Finalement, cette ville, c'est une espèce de huis clos dans cette ville, là où vous avez installé les ateliers du cinéma. Et vous avez demandé, d'ailleurs, vous nous en aviez parlé ici. Vous avez demandé aux élèves. Vous avez fait une espèce de concours, de compétition. Je sais pas comment appeler ça. À partir de smartphone, en disant filmez, faites-moi des bouts d'essai, et c'est comme ça que je vais vous choisir pour participer à mon film.
Oui, alors j'ai lancé un concours, je lance chaque année pour chaque promotion un concours. Je demande à des gens qui ont la passion du cinéma de faire avec leur portable, pour que il faut les mettre tous à égalité sur le plan technique.
Le plan des moyens techniques.
Voilà, ouais. On lance un sujet. Le premier sujet de la première promotion, c'était le premier et le dernier jour d'un couple en 6 minutes. 3 minutes pour le premier jour, 3 minutes pour le deuxième. Et on a reçu...
Ça mérite pas plus.
Voilà, on a reçu 156 films. Et
vous avez reçu celui de Mathieu Valbuena ou pas? Non.
Il vaut de l'or.
Et donc, on a pris les plus fous, les plus enthousiastes, et je les ai pris avec moi comme stagiaires sur le film, parce que la meilleure école au monde, c'est de suivre un film de A à Z. Donc, ils ont été les premiers à qui j'ai raconté le scénario. Ils ont participé au casting. au repérage avec moi. Ils étaient sur le tournage. Ils ont parlé avec tous les acteurs. Tous les acteurs, les techniciens étaient les meilleurs professeurs du monde.
Évidemment.
Ils ont parlé avec Chantal. Chantal a tourné dans un de leurs films. Je veux dire que ce mélange a fait qu'ils étaient dans la plus belle école du monde.
Enrichissant pour eux. En tout cas,
oui, ils parlaient avec le chef opérateur, avec l'ingénieur du son. Moins, ils parlaient avec moi.
Ils sont complètement baignés dans l'ambiance du film.
Ensuite, ils ont assisté au montage du film. Ils ont été les premiers spectateurs du film. Ils ont été les premiers critiques du film. Et là, maintenant, eh ben, ils viennent de finir leur premier court-métrage. Et celui qui va faire le court-métrage le plus enthousiasmant, on lui produit son premier long-métrage.
Et voilà. C'est quoi le sujet de la prochaine session?
Le crime parfait.
Fais gaffe.
Le crime gaffe. Parfait. Et d'ailleurs, le concours
c'est
est
pour
pas
ça qu'il
fini.
A pris du bon Moretti aussi.
Les gens peuvent encore faire le film. Il y a encore un mois et demi, on peut recevoir les films pendant encore un mois.
Et c'est après avoir vu une véritable audience de l'avocat oui. du bon Moretti que vous avez eu l'idée de ce film.
Tout à fait. Un jour, il m'a invité. Il m'a dit, tiens, viens cet après-midi. J'ai une audience intéressante. Donc, la plaidoirie, la défense a duré à peu près une heure et demie, c'est le temps d'un long métrage. Et pendant cette heure et demie, je l'ai observé, mais j'ai observé aussi tous les gens qui étaient dans la salle. Et je me suis dit, quel spectacle! Parce que c'est vrai qu'un procès, c'est la métaphore parfaite de tous les emmerdes de la Terre, pour les uns et pour les autres, sans faire de jeu de mots. Et pendant que je regardais Dupont défendre ce type qui était dans le bloc des accusés, qui avait tué deux bonnes femmes, qui avait touché les assurances, enfin c'était une affaire difficile.
Un homme politique?
Non.
Ah bah, pas chaque
et,
fois.
Et donc je regardais la tête de l'avocat général qui avait demandé le maximum. Il doit avoir des casseroles ce mec-là quand même, il n'est pas aussi blanc bleu. Je regardais le juge qui avait l'air d'être au-dessus de tout le monde. Je regardais les jurés qui allaient juger cet homme. Je regardais le public, je me suis dit mais j'aimerais bien savoir qui ils sont. Et donc j'ai inventé pour tous ces personnages des vies, des histoires. Et j'avais 13 longs métrages en réserve que je ne pouvais pas faire parce que à l'âge que j'ai, je ne pourrais pas tout faire. Et donc j'ai fait des concentrés et j'ai pris dans ces 13 histoires les scènes les plus fortes, celles qui me semblaient être les plus importantes.
Comme par hasard, 13.
Comme par hasard,
comme
oui.
par hasard.
Et la scène avec Dupont Moretti et Béatrice Dalle est culte aussi. Elle est géniale. Elle est magnifique.
Celle-là est absolument impressionnante.
Béatrice Dalle jouant le rôle d'une prostituée qui part, entre guillemets, à la retraite. Quoi, ouais, qui range ses strings oui, et qui se dit maintenant j'arrête.
Et Dupont Moretti est son vie. Et qui donne le son de vie à un voilà. président de cour d'assises qui semble être au-dessus des lois. Et c'est cette prostituée qui a eu 150 000 mecs dans son plumard qui lui explique ce qu'est la vie. Voilà.
Vous êtes content de venir à ce micro un 13 mars ?
Oui, très 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 très. Non, puis vous êtes sympathique aussi.
je parle du 13. Le 13 est tellement important pour vous.
Oui, parce que pour des raisons irrationnelles, ne me demandez pas d'explication. Il faut pas donner d'explication. Il faut surtout pas démystifier les tours de magie.
Très bien. On ne change rien. Pour rester un enfant. Vous auriez sifflé, Leïla, quand on vous annonçait la venue de Chantal Latsou et Claude Lelouch.
Oui, et quand je pense à vous, Chantal, je pense à l'une de vos passions, Tintin.
Ah oui.
J'ai découvert ça et j'ai choisi un auteur belge qu'on aime beaucoup ici, c'est Philippe Geluck, pour nous en parler.
Relire Tintin est une hygiène professionnelle. C'est nécessaire d'abord pour... je le fais parfois comme je consulte un dictionnaire pour vérifier une orthographe ou une conjugaison. Si j'éprouve des difficultés à dessiner un vélo ou une automobile qui part dans tel sens ou tel sens, j'aurai la réponse chez Hergé.
Hommage donc à Hergé comme la référence parmi toutes les références. Et je crois que vous aussi, vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute
oui,
petite.
Oui, parce qu'en fait, j'étais élevée avec des garçons. Mes cousins, mon frère, et je lisais que Tintin. Donc c'est plutôt une bande dessinée pour garçons. Et j'avais pas de poupées, j'avais des ours. Je jouais aux petites voitures, aux billes. Je faisais la balle au prisonnier, donc Tintin me plaisait beaucoup.
Et Tintin, au point de connaître aussi les répliques de
connaître... Où est Maliba Makassi? Je crois que c'est dans l'oreille cassée, mais je suis pas sûre. C'est la pirogue.
Donc les répliques par cœur, les albums par cœur.
Oui, les personnages, Rastapopoulos.
Oui, j'adorais ça. Ah ouais.
Alors votre personnage fétiche, justement, dans la saga
J'aimais
Tintin.
J'aime bien le capitaine Haddock.
Parce qu'il était...
drôle, et puis c'est pas comme mes lunettes, un peu avec ma frange, si vous voulez. Là, j'ai les lunettes, alors est-ce que je mets la branche au-dessus ou la branche en dessous de la frange. Et à un moment donné, dans une bande dessinée, est-ce qu'il met sa barbe
exact.
Au-dessus des draps ou en dessous des draps?
Vraie question de barbu. Ouais.
Et quand je pense à vous, Claude Lelouch, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux. Un jour, je vous ai entendu dans une interview et j'ai compris ce jour-là que dire que le cinéma vous avait sauvé la vie n'était pas du tout une formule ou une posture comme on peut souvent l'entendre.
J'avais 4 ans, 5 ans et ma mère me cachait dans les salles de cinéma. Donc... on n'arrêtait pas encore les juifs dans les salles de cinéma, donc elle a trouvé ça et comme c'était le seul endroit où je restais tranquille, c'était devant un écran de cinéma. Elle me confiait à des ouvreuses et j'ai passé pratiquement toute l'occupation à aller au cinéma tous les jours. Voilà, et c'est comme ça que je suis vraiment tombé amoureux du cinéma. Je dirais que le cinéma a commencé par me sauver la vie. Et puis, donc, je suis tombé amoureux du cinéma, des gens qui étaient sur les écrans. J'ai trouvé que les gens qui étaient sur les écrans étaient plus beaux, plus intelligents, plus courageux que ceux qui étaient dans la rue.
Je me suis dit là qu'on trouvait une explication à pourquoi 46 longs métrages, pourquoi 50 ans de cinéma, parce qu'une histoire originelle.
Oui, non, mais ça a dû partir de là. Ouais. C'est vrai que je suis très vite tombé amoureux du cinéma et de la vie. J'aime la vie avec tous ses défauts, mais vraiment, je l'aime profondément. Et à travers mes films, j'essaye de la faire aimer à ceux qui en doutent. Vous voyez, à ceux qui n'ont pas encore compris que les emmerdes, c'était le jogging du bonheur. Vous voyez, et que les emmerdes, c'était la chose essentielle. C'est là où tout se fabriquait. Bon, on peut pas aller d'un bonheur à un autre bonheur sans passer par la case emmerde. Et ça, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Je pense que tout a un prix. Tout a un prix. La monnaie la plus importante, c'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est avec ça qu'on paye. C'est la souffrance physique et psychique. Et après, avec l'argent de poche, on fait les fins de mois. Mais ce qui fait grandir les gens, c'est la souffrance. Donc, s'il n'y a pas de souffrance, on n'a pas droit au bonheur. Je veux dire que le bonheur, voilà. Et donc, je suis tellement convaincu de ça que, à travers toutes les histoires que j'ai racontées, en fait, je radote. Mais si je radote, c'est parce que je suis de plus en plus sûr de ça. Je sais à quel point l'échec prépare le succès, à quel point le mal est l'inventeur du bien. J'en suis de plus en plus convaincu. Et donc, il faut bien dire à tous les enfants du monde, et surtout aux miens, que les emmerdes, c'est un truc formidable. Voilà. Parce qu'on a envie de les terrasser. Et dès qu'on terrasse un emmerde, on est l'homme le plus heureux du monde. Voilà.
Et pour revenir à cette période-là où vous étiez enfant, dans les salles de cinéma, est-ce que vous avez un souvenir, votre premier souvenir de cinéma dans ces salles? Vous étiez tout petit, qu'est-ce qui vous revient?
Alors, c'était les films français, parce que les films américains étaient interdits. Donc, j'ai découvert le cinéma américain à la Libération en 45. Mais je me rappelle de La Cage au Rossignol qui m'avait fait pleurer et qui est devenu par la suite Les Choristes avec Noël Noël. Et puis, il y avait tous les Fernandel. Donc, j'ai grandi avec Fernandel, j'ai grandi avec Rému, j'ai grandi avec Pagnol, j'ai grandi avec Sacha Guitry. C'est une bonne formation.
Ça va, oui, il y a plus grave, oui.
Voilà.
Il y a plus grave. Le film Chacun sa vie, le nouveau Claude Lelouch, t'as dit 46, moi j'avais compris. 47, c'est le combienième en fait si on compte?
C'est le 46e celui-là.
Y compris les pellicules qui ont été brûlées et détruites.
Non, alors je compte pas les 100, une centaine de Scopitone, je compte pas toutes
non,
les
non, pubs. Non, je comptais la pellicule qui avait été brûlée.
Brûlée, c'est le premier celui-là, oui, Le propre de l'homme.
Donc ça fait 47 avec celui-là.
Ça fait 46 parce que j'ai compté celui qui était brûlé. Donc
d'accord
ça,
aussi, d'accord.
Voilà, donc il
46e film s'appelle Chacun sa vie et sortira ce mercredi au cinéma. Thomas Fersen est là pour nous présenter son nouvel album, ça s'appelle Un coup de queue de vache. C'est non seulement le titre de l'album, mais éponyme, mais également avec cette chanson qu'il va nous interpréter, accompagné par Anne Aurélie, Julien Robin, pour peu de temps encore, avant qu'il nous quitte. Et Raphaël, mais oui, il a un planning chargé, c'est une vedette du violoncelle. Et Raphaël au banjo, et c'est Thomas Fersen, le chanteur du groupe. Bonjour.
Seul en code de ferme, c'est moi qui chante pour dire on ouvre, c'est moi qui chante pour dire on ferme. Et les poulettes, ben je les couvre. Une poule me paraissait pas mal, je la croisais dans le quartier. J'allais faire la danse nuptiale quand elle m'a vu sans monde entier. Depuis que j'ai eu accident, j'ai perdu un peu de mon panache, et puis j'ai perdu toutes mes dents. J'ai pris un coup de queue de vache. J'étais monté sur le tracteur, je m'apprêtais à donner l'heure. Lorsque j'ai vu un parapluie, je me suis précipité sur lui. Parapluie, quel rôle de mec, je lui ai donné un coup de bec. Je ne sais pas ce qui m'a pris, autour de moi tout le monde a ri. Depuis que j'ai eu mon accident, j'ai perdu un peu de mon panache. Et puis ça va pas bien là-dedans, j'ai pris un coup de queue de vache. J'étais sur la margelle du puits, où était-ce la cage à lapins? Je ne sais plus, il faisait nuit, j'interprétais un beau sapin. J'en étais un roi des forêts, on m'a lancé un tabouret. Je voulais chanter frère Jacques, on m'a fourré au fond d'un sac. Depuis que j'ai eu mon accident, j'ai perdu un peu de mon panache. Et puis ça va pas mieux là-dedans, j'ai cru qu'on jouait tout ce cache-cache. Après quoi on m'a présenté une jolie cocotte en fonte. Il faisait chaud comme en été, je me suis dit tiens, la chaleur monte. On m'a offert un verre de vin, on m'a servi des champignons. Je ne raconterai pas la fin, mais j'étais aux petits oignons.
Thomas Fersen, accompagné par Raphaël Maillet au banjo et un quatuor à cordes avec ses dissonances voulues, évidemment, parce que ça se veut grinçant. Cette chanson dans tous les sens du terme.
C'est un peu grinçant, oui. C'est l'histoire d'un coq qui est passé trop près de la vache et qui a pris un coup de queue de vache.
Le coq, c'est... J'ai bien compris les paroles, mais est-ce que le coq, c'est la France? Est-ce que le coq, c'est le pays qui
s'est fait fouetter? C'est le symbole de la nation et c'est aussi l'animal chanteur. Le chanteur, c'est le coq, quoi. Donc c'est un petit peu moi aussi.
C'est vous, ouais.
Et c'est vrai que ça fait mal.
N'allez pas dire que je suis cinglé.
J'ai rien dit du tout.
Non, mais c'est vrai qu'un coup de queue de vache, ça peut faire mal. Ça fouette.
Ça fouette, c'est une expression de campagne pour désigner effectivement celui qui a un peu perdu la raison.
Vous avez grandi d'ailleurs à la campagne. Les animaux ont souvent été présents. Le bal des oiseaux, il y a 24 ans,
oui,
était le premier.
J'ai commencé avec ça, on s'en souvient. Hein.
Ben oui, on s'en souvient. Et on peut pas oublier. Mais est-ce que ça veut dire que comme un Jean de La Fontaine, l'imagerie animale aide à raconter des histoires?
C'est exactement ça, c'est traditionnel. On utilise des imageries quand on est dans un film narratif, ce qui est mon cas. Ces chansons étant destinées au spectacle vivant, donc je raconte des histoires qui ont une forme de conte, je dirais plutôt de conte plutôt que de fable, puisque mes chansons sont dépourvues de morale. Hélas.
Bah oui, j'allais dire pourquoi hélas, ouais.
Oh, je suis bien mal placé, faut redonner.
Non, mais vous pouvez toujours tirer une leçon ou un enseignement d'une histoire. Il y a les animaux présents comme la buse, par exemple. On m'a pris pour une buse. Non, mais vous jouez avec des expressions. Oui. On m'a pris pour une buse. Vous jouez aussi avec les...
J'aime ça, oui. Parce que je pense que le langage est beaucoup fait d'expressions rurales, parce que ça,
le langage... Oui, dormir comme un loir,
rusé comme un...
Votre album, il fait un froid de canard, c'est génial.
Voilà. Il est fait le langage d'expression rurale. Oui, je sais plus ce que je voulais dire à cause de vous. Vous êtes embêtant.
Non, que l'imagerie animale est souvent présente, en tout cas dans la
française. Tout à fait, oui, c'est ça.
Pratiquement tout le long de l'album, il y a ces cordes qui vous accompagnent.
Oui, c'était le cahier des charges, c'est que je voulais une formule unique pour toutes les chansons. Pourquoi? Parce que quand on fait des disques, c'est quand même le dixième, on veut leur donner
une couleur,
une identité très forte, oui, pour qu'ils soient reconnaissables. Et donc j'avais choisi un quatuor à cordes dans lequel l'arrangeur Joseph Racaille a introduit un cinquième instrument à cordes, donc, mais lui, issu de l'instrumentarium populaire, qui donc vient canailler cet ensemble bourgeois. Et il se trouve que dans mon
écriture... Il parle bien, il est tellement France Inter.
Dans mon écriture... À force d'écrire, on finit par parler. Dans mon écriture, je fais la même chose, c'est-à-dire que j'associe la rime riche avec l'élision populaire. Donc il y a ce mélange aussi de goût du château et d'illusion qu'on est un révolutionnaire. C'est
après
très français.
Après la pachanga, j'avais le dos en vrac. Il n'y avait plus qu'à tout mettre dans un sac. sac après la pachanga. J'ai remis mon pantalon, soit il était plus court, soit j'étais plus long.
Alors la moins animale peut-être de toutes les chansons avec le tremblement, mais le testament pardon, mais la plus bestiale.
C'est l'histoire de ma hernie discale, ça. Donc on m'a envoyé chez une multitude de rebouteux,
d'ostéo,
et donc en particulier entre autres la femme géante qui m'a fait danser ce qui était pour moi une sorte de danse exotique parce qu'elle me mettait dans des positions incroyables. Nous étions emmêlés tous les deux et donc j'ai imaginé cette chanson. Parce qu'il faut toujours s'amuser avec ses malheurs, comme disait.
Et vous avez payé combien pour ça?
C'est l'inverse, c'est elle qui a payé.
Ah, pardon.
Il a mis le feu à sa famille et ses biens. Ils étaient si malheureux. Hélas, il n'y pouvait rien. Dans un
une chanson d'une tristesse.
Oui, c'est une chanson poignante.
Ah oui, oui, non mais vraiment.
Oui, c'est une chanson mystique.
Le testament, ouais.
En fait, c'est l'histoire d'un paysan illuminé qui. Pourquoi il est illuminé? Parce qu'il est poussé par la misère. Il devient fou et il met le feu à sa famille, à ses biens. C'est une chanson d'un auteur compositeur québécois que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fred Fortin. Je voulais lui rendre hommage. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Il a arrangé certains de mes albums et réalisé aussi. Et il trouvait sa place, je trouvais, dans cette histoire de ferme, parce que autour de la petite fille qui a donné naissance à la première chanson du disque, la petite fille des petits sabots, il fallait faire une famille. Et donc je trouvais que cette histoire de paysan illuminé avait sa place. Et ce sont aussi des personnages qui m'ont toujours beaucoup plu, à la fois dans la littérature et les romans de Ramu, mais aussi dans le cinéma, comme Le Juge et l'Assassin, ou les romans de Genet, ou etc.
Je n'avais jamais peur, je n'avais jamais l'heure. J'imaginais qu'enfant je t'étais une biche, mes frères.
Vous rejoignez en cela Claude Lelouch dans l'envie de raconter des histoires d'êtres humains, mais elles sont beaucoup plus cruelles, je dirais. Il y a quelques histoires cruelles dans le film de Claude, mais
oui, les contes sont souvent cruels, les histoires pour les enfants sont souvent très très dures, très cruelles, mais c'est une cruauté de théâtre. Tout ça sont des jeux qu'on manipule pour se faire peur et se donner du plaisir.
Et se dire peut-être que la vie est plus douce qu'il n'y paraît, ou
c'est pour adoucir la réelle cruauté et absurdité de l'existence. Parce que si l'homme rêvait pas, la vie serait d'une platitude incroyable.
Mercredi, vous serez en concert à Roubaix le 15 mars, et vous serez au Théâtre de l'Œuvre à Paris du 21 mars au 1er avril. Et surtout, vous revenez dans cette émission pour le Big Bang, nouvel extrait d'un album qui fait un clin d'œil au Pink Floyd avec Cette Vache qui vole.
Je vois que vous avez une culture rock. Nagui.
Me trompe-je? Parce que autant il y a des cordes très Abbey, de très Beatles dans les arrangements,
oui, mais c'est
autant la pochette est très Pink Floyd.
Je suis loin de faire du Pink Floyd, mais c'est une idée de Jean-Baptiste Mondino qui voulait me faire voler sur une vache volante. Je trouvais que c'est une belle idée. Et puis c'est la nature qui se transporte en ville, c'est un petit peu ce que je fais dans mes chansons.
C'est voilà. Ça. Merci Thomas Fersen, à tout à l'heure. Extrait de l'album Un coup de tête vache.
France Inter, Nagui. La bande originale.
Nous parlons de Chacun sa vie, le nouveau film de Claude Lelouch avec Chantal Latsou, qui nous fait la gentillesse et l'amabilité de venir participer également à cette émission. Nous allons.
C'est pas une gentillesse pour vous, Nagui.
C'est pour Claude.
Que j'ai décidé de le suivre partout. Claude.
De le soutenir.
Ça fait 10 ans qu'il attend un rôle, maintenant.
Je ne lâche plus.
Elle a mis du pain.
La bande originale de Chantal et Claude, ça sera juste après l'humeur de Nora Hamzaoui.
Alors, ce week-end, il m'est arrivé un truc un peu bizarre. Une copine m'annonçait qu'elle avait très envie de m'offrir un cadeau. Donc bon, un cadeau comme ça, sans occasion particulière, super. Sauf que là, elle m'annonce que le cadeau en question, c'est un rendez-vous avec une voyante. Donc, une voyante avouait que c'est quand même un peu troublant comme cadeau. Donc moi, je lui demande direct, un peu flippée, mais t'inquiète pour moi, tu trouves qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie? Elle me répond, ah non, non, pas du tout, c'est juste pour l'expérience. Non, mais pour moi, pour une conne. C'est un peu comme si demain, elle, tout allait bien dans sa vie, qu'elle était méga maquée, que je lui offrais un stripteaser, comme ça, juste pour l'expérience, ça n'a pas de sens. T'as des cadeaux comme ça, tu sens que les gens ont voulu faire original et puis ils sont passés complètement à côté en fait, en confondant originalité et indélicatesse. Franchement, c'est une question de savoir vivre, c'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Typiquement, t'offres pas une coupe de cheveux à un pote si à la base t'estimes pas qu'il est coiffé comme une merde. Bon, c'est exactement pareil. En plus, moi, les voyants, ça m'angoisse vachement parce que je supporte pas l'idée que quelqu'un puisse savoir avant moi ce qui va m'arriver. Je trouve ça hyper cruel. Ça me fait penser à toutes mes ruptures amoureuses. Tu sais, quand au resto, à la fin du repas, le mec t'annonce qu'il va prendre ses distances, t'es là, putain, mais moi, je me suis enfilé mon entrée, mon plat, mon dessert. J'étais là, oh là là, elle est ouf cette terrine, pendant que l'autre, il se disais, putain, comment je vais lui annoncer que c'est fini, mais c'est horrible. Mais franchement, le plus humiliant dans l'histoire, c'est pas de se te faire larguer, c'est d'en être foutu plein la gueule pendant que Claude savait très bien que t'allais finir seul avec ton bide. Je trouve ça horrible. Et puis en plus.
Tu finis seul avec ton bide.
C'est-à-dire que je mange beaucoup. Presque pire qu'une mauvaise nouvelle. J'ai peur que la voyante conditionne ma vie, en plus avec un truc qu'elle me dirait. Genre, j'ai l'oncle d'un ami. Une voyante lui a dit qu'il allait vivre un accident d'avion. Le mec n'a plus jamais pris l'avion de sa vie. Il a 55 ans. Ses filles habitent en France, lui au Brésil. Ça fait 17 ans que ça dure, quoi. La voyante a clairement ruiné leur relation familiale. Bon, après, pour sa défense, c'est vrai qu'il n'a pas encore eu son accident d'avion. Donc, à choisir, j'aurais fait comme lui, moi. Je trouve ça insupportable à quel point on peut être vulnérable et du coup influençable dans ses choix de vie. À une échelle différente, l'autre jour, ma mère m'annonce qu'elle a un peu de cholestérol et que c'est génétique. Putain, mais non seulement je peux plus bouffer de la charcute sans culpabiliser, mais en plus, depuis qu'elle m'a dit ça, il y a sa tête qui apparaît dans chaque tranche de chorizo que je commande. Non, mais attends, une info et elle t'a ruiné tous tes apéros à vie, quoi. C'est quand même insupportable, les gens comme ça qui t'injectent de l'angoisse dans ta vie et qui transforment ton quotidien en une information. Du coup, j'essaye d'expliquer ça à ma pote. Je lui dis, mais attends, c'est gentil ton cadeau, mais t'imagines un peu si la voyante m'annonce un truc horrible, moi ça me saoule. Et là, elle me répond quoi? Ah non, mais t'inquiète, elle dit pas les mauvaises nouvelles, elle annonce que les trucs cool. Donc la voyante qui ne sert à rien, quoi. La voyante hyper infantilisante qui est juste là pour te rassurer, mais comment veux-tu que je prenne cette femme au sérieux? Tu sais, ça me fait penser au jambon industriel sans couen. Tu sais, c'est pas parce que t'as retiré le plus gros de la merde que tu vas me faire croire qu'il y a pas encore plein de trucs pourris dans le rose à l'intérieur. Enfin, bon. Ou alors, si ça marchait comme ça, bah chaque merde qui nous arrive, on se dirait oui, ok, j'ai perdu mon boulot, je me suis fait larguer, mon compte est débiteur depuis 3 mois, mais en même temps, la lune est en Verseau, on m'annonce plein de bonnes choses, donc franchement, il y a aucune raison de s'inquiéter. Bah non, ça marche pas. Non, le vrai problème de tout ça, c'est que les gens prennent tous ces sujets à la légère. Ils prennent la vie à la légère. Ils veulent contrôler leur vie, leur destin. On le voit au quotidien. Les gens supportent pas les angoisses. Faut se lâcher tout le temps, kiffer tout le temps. Dès que t'es un peu hypochondriaque, dès que t'es un peu flippé, les gens te sortent leur argument de merde. Mais arrête d'angoisser. Demain tu pourrais prendre un bus et paf. Mais arrête d'angoisser. Demain tu pourrais marcher un pot de fleurs et paf. Quoi et paf. Mais paf quoi. Elle est supposée être rassurante cette info. C'est quoi l'idée? Je vais kiffer comme une idiote insouciante jusque paf. Oh, un pot de fleurs. Bah non, non. Pareil. L'autre jour, je suis à une soirée et là, une meuf habillée tout en velours. Donc déjà, c'est quoi son problème? Bref, elle me regarde. Et là, avec son regard à mi-chemin entre Mylène Farmer et un témoin de Jéhovah, me sort. Et toi, t'es croyante, toi? Non mais attends. Non mais c'est quoi cette façon d'aborder des sujets aussi personnels bourrés à 4 heures du mat? En plus, on dit pas est-ce que t'es croyante, mais quand est-ce que t'es croyante? Bah parce que pardon, dans la vie de tous les jours, pendant que t'es en train de t'enfiler une tartine de kiri ou en avion en pleine zone de turbulence juste au-dessus de l'océan Pacifique avec un voisin qui a des relents de jus de tomate, la croyance c'est pas la même déjà. Donc ouais. De toute façon, excusez-moi, je m'emporte. J'ai arrêté de parler de moi et du destin parce qu'on n'est pas là pour ça. Je rappelle quand même qu'on est là pour chacun sa vie et pas pour la mienne. Alors
mais pas tout le monde est tienne.
Voilà. Alors Monsieur Claude Lelouch, je ne suis pas voyante, je ne peux pas vous prédire l'avenir. N'empêche que je le sens hyper bien, votre film, en tout cas, je touche du bois.
Merci. La bande originale, la vie sur France Inter.
Claude Lelouch, l'ésotérisme, les voyantes et les boules de cristal, ça vous a attiré?
Non, je veux pas savoir, moi. J'écoute même pas la météo, je veux pas savoir.
Mais vous avez l'air d'avoir des porte-bonheur, ne me dis pas que ce...
Non, ça c'est Amma. Amma, qui est une femme qu'on a rencontrée pendant le tournage de 1+1,
ouais.
Qui m'a pris dans ses bras.
Qui fait des câlins, oui, absolument, vous avez parlé ensemble.
J'ai eu beaucoup de mal à oublier ce câlin, voilà. C'est une femme magique qui s'intéresse qu'aux autres, voilà, c'est tellement rare des gens qui s'intéressent aux autres que elle a laissé chez moi des traces et chez Jean Dujardin, Elsa, enfin toute la bande, on est parti avec des petits bracelets comme ça et on n'a pas envie de les quitter, voilà.
Donc pas de superstition aucune, à part ce symbole 13.
Enfin quand même cette couronne de trèfle à quatre fers qu'on porte sur la tête.
Il faut jouer le jeu, il faut jouer le jeu. Je pense que les artistes, on est un peu les chouchous du bon Dieu. On est des messagers, on a des trucs à transmettre comme ça avec humour, voilà. Et je joue le jeu. J'ai pas envie de démystifier l'irrationnel. Vous voyez, l'irrationnel, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Mon intelligence est là pour démystifier. Elle est là pour mon intelligence. Je peux plus la supporter. Elle a trop le sens des affaires. Elle est pragmatique. Elle a peur. Elle me fout la trouille. Alors je me réfugie dans cet irrationnel qui est un magicien extraordinaire et je veux pas connaître les tours de magie. Il y a sûrement des trucs, je veux pas les connaître. En tous les cas, c'est l'irrationnel qui m'a emmené là où je suis aujourd'hui et j'ai fait un tel voyage formidable que je vais essayer d'aller au bout de cette irrationnelle.
Chantal, vous avez aussi votre rapport à la superstition. On dit souvent que les artistes ont des gris-gris. Est-ce que par exemple votre loge, quand vous êtes au théâtre sur scène, est décorée d'une manière précise? Vous faites brûler de l'encens?
Non, rien du tout, non.
Vous tuez un pompier?
Non, simplement, j'avais une grand-mère très superstitieuse et ça me dit des trucs qui me sont restés. Pas mettre une culotte à l'envers, t'as un affront dans la journée, un truc comme ça.
Pas, ouais. En même temps,
un chat noir qui traverse la route. ne pas passer sous une échelle, c'est idiot, quoi. Mais sinon, non, à un moment donné, je mettais mes chaussures le long des murs, l'une derrière l'autre. Et je me suis soigné, maintenant beaucoup moins, je fais ça beaucoup moins. Mais dans ma loge, avant de descendre sur scène, quelquefois, je remontais dans la loge, si la loge était à l'étage, pour remettre mes chaussures le long du mur. C'est complètement idiot, maintenant je me suis un petit peu soigné.
Ça a très bien marché, regardez la carrière que vous faites.
Je crois que c'est grâce aux chaussures.
Évidemment, c'est que les chaussures. La bande originale donc de Chantal Latsou et Claude Lelouch, avant de retrouver un nouveau titre de Thomas Fersen en live, on va commencer en 1955 avec Claude qui écoutait Brassens.
Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Cette musique, en l'entendant, vous vous retrouvez dans quelles circonstances, dans quel lieu? 55 Brassens.
Je jouais dans les jardins publics et j'étais toujours fasciné. Les amoureux me fascinaient. Je me cachais derrière des taillis, je les regardais comme ça s'embrasser. Je disais putain, c'est extraordinaire. Et pour ça, cette chanson m'a très vite interpellé. Je trouve qu'elle raconte tout, quoi.
C'est votre naissance du côté voyeur finalement. Est-ce qu'un réalisateur est un voyeur?
Oui, oui, tout à fait. Mais c'est mes premiers films porno, quoi.
Les bons publics.
Oui, les bons publics, ces amoureux qui s'embrassent.
C'est dans quel quartier?
C'était boulevard de Strasbourg.
Voilà. Mais tu peux y aller, ils sont encore. Hein.
On en voit moins des amoureux qui se bécotent.
Ils n'osent plus maintenant.
Non, ouais, c'est vrai, on s'embrasse moins dans la rue. C'est vrai,
oui.
C'est vrai. Vous avez raté votre baccalauréat et votre papa. Vous avez surpris une conversation entre papa et maman.
C'est vrai.
Avec le côté, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui?
Oui, oui, j'étais désespéré la veille du bac. Mes parents parlaient la nuit dans la cuisine. Ils n'avaient pas dormi, ils mangeaient du chocolat. Et un jour, j'ai surpris leur conversation la veille du bac. Moi non plus, j'arrivais pas à dormir. Je me disais, comment ça va se passer? Et comme j'avais fait des études épouvantables, puisque je séchais tous les jours pour aller au cinéma, donc mon père, ma mère dit, qu'est-ce qu'on fait de lui s'il rate le bac? Et mon père lui dit, tu vas voir, il va vraiment le rater le bac. Eh ben, s'il rate le bac, je lui achète une caméra qui se démerde. Putain, c'était la plus belle nouvelle de ma vie.
Vous y êtes pas allé, du coup.
Alors, je suis allé au bac, mais j'ai pas forcé le trait. Et c'est vrai que quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais raté le bac, eh bien, mon père m'avait acheté cette caméra ETM 16 mm qui a changé ma vie. Voilà.
Et vous avez été...
Oui, je l'ai toujours.
Ah, il y a une collection de caméras. Enfin, je pense que oui, toutes les caméras sont à vous.
J'ai gardé toutes mes caméras. Ah, j'ai gardé toutes mes caméras parce que c'est l'acteur principal de ma vie, la caméra. C'est vrai que c'est l'acteur qui a été le plus difficile à diriger. J'ai mis 50 ans à essayer de comprendre cet acteur incroyable, parce que la caméra a tourné dans tous les films de l'histoire du cinéma, dans tous les plans. C'est un acteur invisible et c'est l'acteur qu'il faut apprendre à dominer avant de dominer les autres. Donc j'ai gardé toutes mes caméras parce que j'aurais pas pu vendre mes caméras qui avaient été le témoin de mes émotions.
Dans ces années-là, pendant que vous matez les amoureux des bancs publics, Chantal Latsou, écoutez.
Je suis le vagabond, le marchand de bonheur.
Et là aussi, pareil, quand vous étiez une petite fille, le regard de vos parents sur le métier ou sur votre avenir a été particulier. Vous leur avez déclaré
à 7 ans,
je veux être comédienne, et ils ont un peu eu peur.
Ils ont un peu eu peur, et je m'étais introduite dans un cours d'art dramatique, le Centre dramatique du Nord. Ils partaient avec le mariage de Figaro, ils cherchaient un page. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux, petite fille? J'ai dit, je veux faire du théâtre. Et elle m'a dit, tiens, on cherchait un petit page pour partir en tournée. Et mes parents n'ont pas voulu. Je sais pas pourquoi.
Pourtant, votre maman adorait le théâtre.
Elle adorait le théâtre. Elle nous emmenait au théâtre. Elle nous emmenait à Paris au théâtre, voir des pièces, toutes sortes de choses. Et elle aurait voulu, elle m'a toujours dit, si j'avais pas eu la guerre, j'aurais été comédienne. Et donc, elle a dû m'insuffler ce truc-là et je voulais faire que ça. Je me voyais que sur scène, en fait.
Et elle vous a appris une phrase d'Oscar Wilde que vous devez avoir en mémoire, parce qu'elle est très belle, c'est une...
Sois toi-même, les autres sont déjà pris.
J'adore.
Mais
c'est
génial,
tellement bien. Sois toi-même, les autres sont déjà pris. J'adore ça. En 71, Chantal, vous écoutez Charles Aznavour.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait.
Et là, vous inscrivez au cours Simon. à Paris. Et donc j'imagine que la décision, évidemment, a dû choquer.
Je suis parti en stop à Paris. J'habitais Tourcoing, enfin Roubaix-Tourcoing à côté. Et mon père ne voulait pas du tout. Il m'avait menacé de me couper les vivres si j'allais faire du théâtre à Paris. Il avait peur.
C'était pas une manière de vous aider aussi de couper
non,
les vivres parce que
me donner des exemples de gens qui voulaient faire de la musique à Paris. Ils allaient sous les ponts, ils vivaient sous les ponts. J'ai dit mais sous les ponts il y a une très bonne acoustique.
Ça résonne.
Sous les ponts, les musiciens répètent.
Et donc vous avez fait hôtesse parallèlement pour pouvoir subvenir à vos besoins d'étudiante au cours Simon.
Oui, chez Rank Xerox. Donc il fallait que j'apprenne aux gens à se servir des machines Rank Xerox, des énormes machines. Mais il y avait des cours forcément. Et moi j'apprenais pas les cours, donc j'allais faire un peu n'importe quoi, donc ça se passait pas très bien, mais je suis resté 2 ans quand même.
Et vous aviez raconté ici l'accueil relativement froid de René Simon, qui était, qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient de débarquer?
Oui, parce qu'en fait, j'avais très peur d'y aller, comme j'étais très timide, très longtemps, je faisais 3 pas en avant, 2 pas en arrière, et j'avais très peur d'aller au cours Simon, et un jour je suis allé à une masterclass, il faisait des masterclass tous les mois, puis j'étais depuis presque un an à Paris, et je suis dit, ça y est, j'y vais. Aujourd'hui, j'y vais. J'ai bu un verre de vin. Et j'y suis allé.
Ça commençait mal, mais ça a mieux fini avec René Simon.
Voilà, et si vous voulez, il y a une porte avec la lumière rouge, comme ici d'ailleurs.
Ne pas entrer, oui, c'est ça.
Quand on a la lumière rouge, on ne peut pas entrer.
Exact.
Et moi, j'étais tellement. J'avais décidé d'y aller, je n'ai pas vu cette lumière rouge, j'ai tiré la porte et j'ai cassé le verrou.
Ça commence bien.
Il y avait un monde fou, il y avait une grosse lampe sur la scène, et il l'a dirigée vers moi, il dit, qu'est-ce qui vient d'entrer ici? Il y a quelqu'un de bizarre qui vient d'entrer. Il parlait comme ça, vous n'avez plus de dents. Il y a quelqu'un de bizarre qui vient d'entrer, et il a dirigé le projecteur sur moi, et ça m'a... J'étais paniqué, quoi. C'était ma première entrée au cours Simon. Et quand il m'a vu sur scène, il est venu me voir, il m'a dit, toi, tu feras des trucs très très tard. Parce que j'avais déjà cette autorité de voix, en fait. Et cette voix grave, étant jeune, il m'a dit, toi, tu peux retourner chez toi, c'est pas la peine, tu feras jamais des jeunes premières.
Il fallait que le physique revienne synchro avec la voix.
Il fallait que le physique revienne synchro. C'est pour ça que j'ai attendu un certain temps.
Ceci dit, il a eu une bonne analyse. Ben, il fallait que la maturité de la voix soit crédible.
Ouais, ouais, ouais.
Dans ces années-là, on retrouve la première chanson, celle que vous écoutez dans les années 70, la première chanson de Chacun sa vie, et même la dernière, Johnny.
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'elle...
Vous réalisez, Claude Lelouch, L'aventure c'est l'aventure, avec Lino Ventura, Jacques Brel et Aldo Machon et Johnny.
Et Johnny.
Bah, oui,
Johnny.
Puisqu'elle est kidnappée dans le film. L'histoire, vous et Johnny, elle date de la première rencontre. C'était un Scopitone ou c'était
l'aventure? C'était un Scopitone.
L'ancêtre du clip, hein, je rappelle que c'est vous qui avez...
C'était l'ancêtre du clip et il avait... C'était l'idole des jeunes. Je me rappelle, il était arrivé avec 5 heures de retard sur le tournage. C'était déjà une immense star et puis on s'est plus quittés. On est devenus vraiment... des amis, et vraiment on a grandi ensemble, lui chantait, moi je faisais des films, et à chaque fois qu'on se croisait, on n'avait pas envie de se quitter, voilà, donc on s'est croisés sur plusieurs Scopitones, ensuite on s'est croisés sur L'aventure c'est l'aventure, ensuite je lui ai fait faire Salon au thème, et puis là j'avais envie de faire un petit feu d'artifice avec lui.
Alors comment il a réagi quand vous lui avez dit « tu vas jouer ton sosie » ?
Eh ben, il a réagi comme tous les gens qui ont plusieurs degrés à leur disposition. Il a tout de suite compris que c'était peut-être le rôle de sa vie, parce que jouer un sosie, c'est pour un acteur que dans la finesse. Je veux dire qu'on peut pas réussir un rôle comme ça si on ne domine pas le premier, le deuxième, et le troisième et le quatrième degré. Et Johnny a joué le jeu, puisque... Et pendant tout le film, il fait une caricature de Johnny. Je veux dire, il se caricature lui-même. Il s'est trouvé, il s'est inventé des défauts. On le voit à un moment donné au concert dans la salle où il chante en même temps que Johnny.
Il se trompe dans les paroles. Même.
Et il se trompe dans les paroles. Ouais. Il fait les gestes. En plus, il a enregistré, il a croisé des dizaines de sosies tout au long de sa vie, et il connaît exactement leurs défauts, leur façon de parler. Puis c'est des gens qui font aussi des concerts, ils font surtout des mariages, voilà, des anniversaires.
Ah, ça c'est la scène culte dans les toilettes, même du commissariat, avec Antoine Duléry, qui est son grand
jardin,
pote, et Jean Dujardin. Oui. C'est vraiment l'une des scènes qui va marquer.
Qui, on sait plus qui est Johnny ou pas Johnny.
J'avais une question, est-ce qu'il y a une image subliminal, le début du film, c'est on voit une foule qui applaudit Johnny et l'image est à l'envers. Je voulais savoir ce que vous vouliez faire passer avec cette image-là. Non. C'est comme une machine à remonter le temps, c'est comme une...
Oui, peut-être, peut-être. Mais enfin, encore une fois, vous savez, moi, je découvre mes films quand ils sont finis. Au moment du tournage, je sais que ce soir-là, j'avais dit à Johnny, je vais monter sur la scène avec toi, parce que je voudrais te coller à toi. Et Johnny avait jamais laissé monter une caméra quand il chante sur scène à côté de lui. Les caméras étaient toujours très loin, etc. Et c'est ça qu'on a fait à ce moment-là. Donc j'ai...
mais je parlais de la scène du public, un public qui applaudit, mais qui applaudit à l'envers. Et je me suis dit, tiens, c'est une belle. Oui, ça fait, c'est comme
ça,
ça fait comme
des grands
clous. Oui, non. Ah, bah, regardez votre film, Claude.
Je sais, mais ça, encore une fois, ce sont les phénomènes maintenant qu'on peut faire avec les
avec
nouvelles machines.
Avec d'accord. Voilà. Chacun sa vie, ça sera mercredi. On voit Daniel, même si ce n'est pas le cœur du film, que derrière chaque juré, notamment dans ce film, dans un procès, il y a une histoire avec des souffrances. C'est le point de départ qu'a voulu Claude. Il y a des fêlures qui peuvent peut-être d'ailleurs orienter le jugement. On doit douter en permanence, mais ça, c'est humain, c'est ce côté humain
qui
prévaut.
Oh yes, et c'est là, yes. Ça, une fois encore, bravo.
Parce que dans le film.
C'est qui le kiki de tous les kiki? C'est Monsieur Guy, il n'y a pas à dire. Vous avez oublié d'être con, mon garçon. Non, même si aujourd'hui, je serais tenté de dire que vous avez mis un pied dans la bêtise, car non, Monsieur Guy, être juré, c'est que du kiff. La toute puissance, le pied intégral. Un pied que, il me semble, vous avez déjà pris quand vous avez demandé la condamnation à la lapidation d'un enfant de 5 ans aveugle qui avait rayé sans faire exprès votre Rolls en or plaqué diamant garé sur une place handicapée. Hein? Oui, baissez les yeux, ça vaut mieux. Et pour être honnête, moi aussi j'ai connu cette expérience de juré et c'était bon. Voir comme ça, au bout des doigts, le sort d'une personne, c'est jouissif. Je me souviens, c'était en 1992, une affaire sordide. Dans le box des accusés, un fermier auvergnat, jugé pour harcèlement moral et sexuel sur une de ses vaches. La victime, Françoise, une génisse de 3 ans, traumatisée.
Le coup de queue de vache, quoi, le fameux.
Exactement, elle ne supportait plus que d'écouter des disques de Thomas Fersen, chanter le coup de queue de vache. Eh bien, tous les membres du jury étaient du côté du satyre agricole. Eh bien moi, j'ai dit non. Non à la justice, qu'elle soit humaine ou bovine. Tel un Henri Fonda, dans Tous hommes en colère, j'ai levé la main pour dire « Non, stop !» Françoise est victime, elle mérite justice. J'évoquais l'horreur, j'ai décrit l'indicible, j'ai narré le cauchemar. Et à force de conviction, d'émotion et de partage des valeurs humanistes qui m'habitent, j'ai retourné la situation et Françoise a obtenu réparation et le pervers fut condamné. Comme quoi, Monsieur Guy, mon moi profond, qui est basé normalement sur la méchanceté, étayé par la mesquinerie et cimenté par le mauvais esprit, n'a eu aucune prise sur mon comportement de juré. Cela ne m'a jamais orienté, ni mon jugement, ni autre chose, comme vous l'avez dit sottement en début. Eh bien oui, un moment d'égarement et de compassion s'est emparé de moi et a pris le pouvoir. Comme quoi, une fois de plus, désolé Monsieur Guy, mais vous avez dit...
N'importe quoi.
Merci en live.
Tous en cœur. Avec
Thomas, continuez d'applaudir Thomas Fersen avec Big Bang en live.
La salle s'éteint et je m'avance en cri à poil. À peu de patience, je fais d'abord une petite danse. On crie qu'on veut me voir toute nue. Un peu de sérieux, un peu de tenue. Quand j'en sors un, j'ai mal pour eux. Quand j'en sors un, ça leur déboîte les yeux. On désire m'offrir du champagne. À moi la fille de la campagne. Avant je m'occupais des cochons. Et ma belle-mère m'appelait la souillon. Quand j'en sors un, c'est le Big Bang. Les types ça leur allonge la langue. Ils ont les yeux qui sortent des trous. Quand j'en sors un, ça leur étire le cou. On fait venir les millésimes. Pour moi la fille de la cuisine. Avant je cuirais les chaudrons. Et ma belle-mère m'appelle les cuissandrons. On voit qu'ils aiment, mais lorsque je sors le deuxième, alors là c'est l'apothéose. J'enlève mon pyjama de satin rose, je leur mets un petit pompon au bout, et tout le public est debout. Lorsque je fais l'hélicoptère, mais il est temps de redescendre sur terre. Il ne me reste plus qu'un slip taillé dans la peau d'un moustique. Ainsi finit mon numéro.
Merci Thomas Fersen avec le Big Bang. Il reviendra tout à l'heure faire l'hélicoptère. Ça sera avec une reprise en fin d'émission de cette bande originale. Mais si, je t'assure. C'est la bande originale avec Leila Kadoboudadi, Noam Zawi, Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Villa.
Bonjour. Bravo.
Nous aurons tout à l'heure encore en live Thomas Fersen. Nos invités sont Chantal Lasseux et Claude Lelouch. Avec ce film, donc, Chacun sa vie et ce Rubik's Cube qui symbolise finalement l'enchevêtrement, toute la vie à multiples facettes. Enfin, j'imagine que vous avez voulu donner beaucoup de sens à ce choix.
Mais c'est souvent le Rubik's Cube peut devenir très vite le Rubicon, quoi.
Joli.
C'est joli, c'est très joli.
Faut-il ou pas le franchir?
En tout cas. Et puis le sous-titre du film est important, c'est Chacun sa vie. Son intime conviction.
Et son intime conviction.
Et son intime conviction. Et donc, on est dans l'intimité de ces personnages, dans ce qu'ils considèrent être la vérité ou pas, dans leurs croyances aussi.
Et la manière dont leur vie peut basculer en fonction de la vie des autres.
Absolument.
Et de l'apostrophe à vie des autres aussi, parce que chacun a une influence sur le...
Oui, on est tous rattachés par un fil invisible, qu'on le veuille ou non, et à chaque fois que l'un de nous brise ce fil, c'est le bordel. C'est le bordel, et c'est ce bordel qu'on a essayé de filmer, parce qu'il n'y a rien de plus photogénique que le bordel.
Et vous aimez le bordel.
Et j'adore le bordel.
Et chacun peut être ange et démon, certes.
Oui, c'est surtout ça.
Ange et démon.
Il y a une vitesse rapide, hein.
Je crois que c'est un ange et c'est un démon. Et tout le monde, hein, ça.
Tu parles de moi? Dans Chacun sa vie, la première image est celle de Dupont Moretti, l'avocat. Ça a été facile de le convaincre de devenir comédien, parce que le piège, entre guillemets, pour lui, c'est que maintenant, dans ses plaidoiries, on va dire non, mais ça, c'est le comédien. Vous n'êtes pas sincère dans ce que vous dites. Vous jouez.
Non, mais
parce qu'il joue extrêmement bien, en plus.
Il est fabuleux, mais un avocat qui se lève pour défendre la vie de quelqu'un, c'est du théâtre. Il le sait. Et il a droit qu'à une prise. Parce que s'il se gourre, le mec, il en a pour 22 ans. Alors qu'au cinéma, on peut refaire. Voilà. Et donc, je suis toujours impressionné quand un avocat se lève, parce que c'est lui, à ce moment-là, qui va jouer avec la vie de celui qui attend tout. Et on n'a pas droit à l'erreur. Si l'avocat est mauvais, c'est le mec, il en prend pour, il prend un maximum. Si l'avocat est bon, il s'en sort. Donc, ça montre à quel point les gens ont besoin d'être spontanés pour être convaincants. Moi, ce que je demande à mes acteurs, c'est la première chose que je leur demande, c'est d'être spontanés. J'ai envie, j'aimerais rester et être le metteur en scène de la spontanéité. Quand on est spontané, on peut dire n'importe quelle connerie, ça passe, on l'écoute. Et la spontanéité, c'est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Et c'est un intermédiaire qui fait qu'on n'est pas encore sûr de son coup.
Mais, non,
mais quand les comédiens sont spontanés, je peux dire n'importe. Quand on fait l'aventure, c'est l'aventure. C'est un film sur la connerie, c'est un hommage à la connerie. Mais ils étaient tellement spontanés que la connerie a triomphé.
Et en matière de spontanéité, Chantal Latsou ou encore Béatrice Dalle, là, c'est un casting parfait.
Oui, c'est vrai.
C'est pas votre meilleure spontanéité.
Non, c'est vrai, c'est qu'ils cherchent ça, et le naturel, la spontanéité, il faut y aller.
Mais c'est pas une des choses les plus dures, justement, de demander à un comédien d'être spontané. C'est comme quand on prend une photo, on fait soit naturel.
C'est ça. Surtout quand le comédien a l'habitude d'apprendre un texte et de jouer un personnage. Chantal, vous l'avez vécu comment cette première fois avec Claude Lelouch?
Mais moi, j'étais très très. J'avais un petit peu peur au début parce que moi, je suis un petit peu timide, donc j'avais un petit. Mais après, il m'a mis très à l'aise et ça a été. Et j'avais quand même un des sketchs qui était peut-être le plus écrit un petit peu, donc il savait exactement. Et mais je l'ai vécu très bien parce que il nous pousse derrière. En plus, il a son œil qui rit derrière la caméra. Alors ça, c'est magnifique. L'œil qui se plisse. Et on a envie de lui faire plaisir.
Il vous parle pendant la prise ?
Il nous parle pendant la prise, oui, puis on sent qu'il est avec nous. Il est avec nous, il peut se mettre derrière nous aussi pour le répondre. S'il a une idée qui lui vient, il nous souffle. Et on le sent toujours présent et on a envie de lui faire plaisir. On a envie vraiment qu'il rie.
Donc c'est quand même plus écrit que ce que l'on prétend, parce qu'on a l'impression que...
Ça dépend des choses.
Ça dépend des scènes. Vous savez, moi je fais du cinéma comme d'autres font du jazz. il y a le thème et puis ce qu'on en fait après. Voilà, il y a donc il y a les figures libres et puis il y a les figures imposées. Il y a ce qu'on a envie de dire aux gens puisqu'on leur dit. Vous savez, quand on va à un repas amoureux, on dit tiens, je vais lui dire ci, ça, ça, ça. Et puis quand on voit la nana, on a envie de se barrer, on lui dit autre chose. Enfin, on ne sait pas.
Voilà.
Il y a le présent est plus fort que tout ce qu'on a pu imaginer. Moi, je sais que le moment du tournage, c'est le moment de vérité. C'est le moment où là, je vois si tout ce qu'on a écrit, ça tient la route ou pas. Parce que
et
vous avez les acteurs.
Des choses, après, voilà, l'acteur propose.
Et pendant la prise, comme je suis un peu auteur de ce film, j'ai envie, j'invente des dialogues. Je leur souffle des dialogues qui me viennent pendant la prise parce que leur réaction, leur façon de jouer, on est dans la vie, on est dans la vie. Et la vie a plus d'imagination que tous les. C'est le plus grand scénariste du monde. Moi, je lui ai tout pompé à la vie. Elle pourrait me faire un procès.
Mais le montage, c'est pas compliqué après ?
Non, parce qu'au montage, on voit très bien ce qui réussit, ce qui l'est pas. Je veux dire que c'est ce qui reste quand on a tout coupé, quoi. Mais c'est vrai que le montage, c'est le cœur même du cinéma. Je veux dire que les plus grands cinéastes sont d'anciens monteurs. C'est là où on apprend vraiment le cinéma. D'ailleurs, dans mes ateliers du cinéma, la première chose que j'apprends à mes élèves, c'est le montage.
C'est un film très musical, c'est pour ça aussi que j'avais envie que l'on entende.
Très, très musical.
Très belle bande-annonce. Très belle bande originale.
Non, mais la musique, elle est fondamentale dans tous mes films. C'est un acteur important de tous mes films parce que c'est quand même ce qui parle le mieux à notre inconscient. Encore une fois, à notre part d'irrationnel.
Plus que les images.
Regardez la tête des gens qui écoutent à un concert un Johnny Hallyday, par exemple. Prenez les mêmes après un concert, un discours politique. Vous allez voir, c'est pas les mêmes têtes qu'ils font. Voilà.
Non. Inconscient et irrationnel, deux qualificatifs qui vont extrêmement bien à Daniel Morin. Le voici.
C'est pas faux. Alors les amis, on peut tout dire de François Fillon.
Sauf quoi ?
Mais dire qu'il est mal habillé. Non, et pour cause, ses costards sont impeccables. Impeccables et pour cause. Ils valent une blinde. Est-ce qu'un parlementaire peut s'offrir des costards hors de prix ? Normalement, non. Non, et comment qu'il fait alors François Fillon pour avoir des costards de ministre saoudien ? Eh bien, il a des amis hyper sympas, qui lui offrent ses costumes. 50 000 balles de costumes, de vestes, de cravates et de chandails divers et variés. 50 000 boules, c'est énorme. Nagui, pour dépenser 50 000 balles de fringues, il lui faut au moins 2 semaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
En solde,
absolument. Alors, les fringues à François, c'est la dernière saloperie qui vient tacher la réputation de l'ancien Premier ministre. Un ancien Premier ministre qui en a marre de justifier et qui hier a tout simplement déclaré « Un ami m'a offert des costumes en février ». Et alors ? Eh oui, c'est génial, c'est l'argument ultime. Un ami lui a fait des cadeaux, c'est pas interdit. Des cadeaux d'une valeur de 50 000 balles, c'est beaucoup. Mais si c'est un ami riche, ça se tient. Du coup, il peut dégainer le « et alors ». On a oublié ça, la force du « et alors ». Et c'est dommage, parce que c'est imparable. Enfin, on n'a pas tous oublié. J'en connais un qui manie le « et alors » avec brio. Nagui, par exemple. Quand on va avec l'équipe au restaurant, qu'à la fin du repas, Nagui demande l'addition en disant « Laissez les gars, c'est pour moi !» et qu'il prend ma carte bleue pour payer. Je lui fais remarquer que c'est ma carte de crédit. Il me regarde bien droit dans les yeux et me répond « Tu fais partie de l'équipe, c'est ta carte ?» Et alors ? Pareil, quand après une soirée, il repart avec ma femme et que je lui fais comprendre qu'il s'est trompé, il me répond sans ménagement « J'aime les blondes, ta femme est blonde, je pars avec !» Et alors ? Oh, on devrait tous faire comme Nagui et François Fillon. Un peu de transparence et d'honnêteté, ça fait passer bien des pilules. Hein. Ouais. J'ai pas de programme économique, je vais revenir au Moyen-Âge. Et alors ? Ce serait honnête et limpide de la part de Marine Le Pen. Oui, j'ai les cheveux oranges, et alors ? Ce serait malin de la part de Donald Trump pour recentrer le débat, l'écarter du prisme raciste et l'orienter sur une thématique capillaire à moindre enjeu. Je tire la France vers le bas, et alors ? Faudrait dire Cyril Hanouna pour mettre fin au cancan calomnieux. J'aime la jeunesse parfois un peu trop, et alors ? Devrait dire Jean-Luc Lahaye, jugé un peu trop bienveillant avec les écolières. Ça prend 7 minutes 30 pour le générique, citer toutes les stars que je prends pour un seul film, et alors ? Devrait s'enorgueillir Claude Lelouch pour évoquer son dernier film. Oui, c'est moi qui offre les costards à François Fillon, et alors ? Devrait avouer Nagui qui par ailleurs fait des cadeaux d'honneur à tous les candidats de la présidentielle pour s'assurer un avenir solide pour les 5 prochaines années. Mais oui, mais attention tout de même, le « et alors » ne marche pas pour tout, monsieur Fillon. Si un jour vous êtes amené à dire « je prends de la drogue, j'ai une liaison avec un Doberman, je suis pour le réchauffement climatique, la peine de mort pour les enfants, et alors ?» Eh bien là, ça ne marchera pas, enfin, j'espère. À demain.
Merci, Daniel.
Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir, Chantal Latsou ? Vous avez des films à nous annoncer en préparation, des pièces que vous allez faire à la rentrée prochaine ?
Oui, là je suis un peu en écriture d'un nouveau One,
Super.
Le One Man Show, et j'ai tourné aussi avec Florence Quentin dans son prochain film. avec Depardieu et Deneuve, et ça sortira fin août, je crois.
Très bien.
Ouais.
Est-ce que c'est celui qui s'appelle
Bonne Pomme.
Et d'accord. Et vous êtes dans Alibi.com quand même.
Ah, je suis dans Alibi.com.
Énorme succès.
Oui.
Énorme succès. Carton.
Je voulais pas le faire, les dons, c'est dingue. Hein.
D'accord.
Parce que, non, c'est vrai parce que mon agent m'appelle en me disant il faudrait que tu viennes faire un tout petit truc dans le film. J'étais au théâtre dans Peau de Vache et je jouais donc le soir. Et c'était un tournage de nuit. Donc un lundi soir, mais un tournage de nuit. Mais que si je tourne la nuit, je me suis dit, tournage de nuit, ça va me faire coucher à 4h. Mais comme je ne dors pas la journée, j'ai dit, je vais être crevé pour le théâtre. Et pour moi, c'était plus important d'être au théâtre. Elle me dit, si, vas-y, tu sais, même un petit truc, c'est vachement important, on ne sait jamais.
Bah c'est une réussite en tout cas.
En fait, oui, c'est vrai, bon, cette scène est vachement marquée, c'est curieux.
Quant à Bonne Pomme de Florence Quentin, le film sortira le 23 août. Hein, j'ai
très bien. Dates,
avec donc Gérard Depardieu, Catherine Deneuve et Chantal Latsou.
Ça, c'est incroyable. Quand même.
Il y a Guillaume de Tonquédec aussi.
Guillaume de Tonquédec.
Brillant Guillaume de Tonquédec. Est-ce que vous êtes déjà dans le 47e ou 48e? Avez-vous déjà une idée, Claude, de la piste?
Oui,
déjà
mais vous savez, je ne sais rien faire d'autre. Hein. Je ne sais rien faire d'autre. Non, c'est vrai, j'ai toujours un film en préparation, voilà, et si tout se passe bien, on démarrera le tournage à la fin de l'année, voilà, si tout va bien.
En gardant, parce que là, ça fait, il y a presque une trilogie, Elsa Gilbertschein et Jean Dujardin qui s'installent ou pas?
Non, pour l'instant, je peux rien dire sur le casting, parce que j'ai pas fini l'écriture, mais c'est un film qui va s'appeler « Oui ou non ». Oui ou non, parce qu'on est le résultat de tous les oui et de tous les non qu'on a dit dans notre vie, voilà. Et donc, c'est un film qui va bien m'amuser. Enfin, j'espère aller au bout de l'écriture, voilà.
Voici le brouillon de culture pour Chantal Latsou et Claude Lelouch, signé Leïla Kadraoui.
Chantal, Claude, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous, Claude Lelouch.
In the still of the night, three lives are about to cross. An abandoned woman, a stranger awaiting his chance, and a famous writer who imagines the thriller of the year.
C'est un extrait de la bande-annonce
américaine.
Non, pas ça.
Il le fait bien pourtant.
C'est la bande-annonce américaine de Roman de Gare, un de vos films, Claude Lelouch.
Oui, absolument.
Qui est parti faire un tour de l'autre côté de l'Atlantique.
C'est ça. C'était la bande-annonce, effectivement. Et alors, comme mon anglais est très, très mauvais, il faut que je me la fasse traduire en permanence.
Alors, ce film, Roman de Gare, vous l'avez réalisé sous un pseudo.
Oui.
Hervé Picard, qui était le nom de votre ancien prof de tennis.
Non, c'était mon prof de tennis. Il est devenu mon meilleur ami.
Ouais.
Et c'est vrai qu'un jour, j'ai eu envie de faire un film un peu sous un pseudo, parce que j'en avais un peu marre... de ce que disaient les grincheux sur mes films en général, vous voyez, voilà. Et c'est vrai que pour la première fois, ils m'ont fait des critiques fantastiques. Donc c'était bien mon nom qui leur faisait peur, quoi.
Et ça a été important aussi pour vous, à ce moment-là de votre carrière, de se dire que finalement, c'était plutôt votre nom qui était jugé que votre travail, finalement,
non,
à travers ces critiques.
À un moment donné, vous savez, je suis très ami avec Woody Allen, et lui, il a un film de plus que moi, il est en train de faire le 48e, moi je suis au 47e, vous voyez, donc on se fait la cour, et il me disait, à un moment donné, les gens mélangent tous nos films, ils savent plus lequel c'est, donc c'est important, à un moment donné, de faire des films qui les font sortir de leurs habitudes, voilà. Et donc j'avais envie, avec Roman de Gare, que les médias sortent de leurs habitudes, parce que il y en a même qui font la critique d'un film de Claude Lelouch sans aller le voir, en disant il a dû faire le même, donc etc. À un moment donné, il faut quand même réveiller ceux qui vivent de leurs habitudes.
C'est
quoi.
Une marque aussi, quand on dit c'est un Lelouch, il y a que vous qui
faites. À la fois c'est agréable, mais en même temps c'est vrai qu'aujourd'hui on est victime. Par exemple, on est dans un monde aujourd'hui où la crise que nous vivons, c'est la crise du pas mal. Si aujourd'hui, je vous dis, le dernier Woody Allen, il est pas mal, ce bouquin, il est pas mal, ce restaurant, il est pas mal, on n'y va plus.
Mais il y a quand même des bons et des mauvais Lelouch, si
et
je
oui,
vous permettez.
Oui, c'est vrai, hélas, oui, c'est vrai, mais... Non, mais je fais avec, et puis j'essaye de faire joujou avec les habitudes. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut casser les habitudes des uns et des autres.
Et est-ce que votre cinéma s'exporte bien, puisque là, Roman de Gare a été faire un tour aux États-Unis? Est-ce que c'est important aussi pour vous de faire voyager vos films?
Mais écoutez, à ce jour, Un homme et une femme reste le film français qui a fait le plus d'entrées dans le monde.
Et
voilà, donc c'est pas mal.
Donc ça veut dire que ça voyage plutôt pas mal. On poursuit avec un son pour vous, Chantal.
Oui.
I want it.
Et à la batterie,
c'est Big and Tasty de Maxime Torres, un tube de 2011, et vous apparaissez dans le clip, Chantal, là-dessous.
Ah oui, peut-être, oui.
Ah, vous
comment, ça mais comment ça? À votre agent, il vous fait faire n'importe quoi.
Non, c'est vrai, mais oui.
C'était la nuit.
Alors, moi, je voulais vous demander comment vous êtes retrouvés dans ce clip.
Eh bien, on m'a dit qu'ils allaient tourner quelque part. Et j'y suis allée.
Non mais
et je me suis pas rendu compte que c'était dans ce clip. Oui, je l'ai même pas vu, dites donc. C'est
fou, vrai, hein. Vous l'avez pas vu. Bah alors, je vous passerai le lien.
Ah oui, je veux bien,
à l'occasion, parce que c'est quand même Maxime Torres. C'était une valeur importante de
c'était un grand DJ.
Ouais, de la scène électro française.
Ouais,
je...
c'est vrai que j'ai cartonné avec ça. Au niveau des jeunes, tout le monde m'appelait. Mais dis donc, t'es dans le
Chantal.
De Torres. Mais c'est okay, d'accord.
Ça fait quoi d'être une star dans les Macumba du coup alors
à Ibiza, tu rigoles. Elle cartonne à Ibiza.
Non mais ça, sincèrement, vous avez pas de souvenir du tout.
Si si, on l'a tourné.
Non, mais elle a pris une petite pilule, elle a tout oublié.
On a tourné à Boulogne, oui.
Dans quel coin?
Dans une petite boutique.
Ah. Et vous avez accepté par amitié pour le.
C'est drôle.
Pour
oui,
le
j'ai accepté parce que l'équipe était sympathique. Ouais. Et les gens qui ont fait le tournage, le metteur en scène, tout ça, j'ai dit oui.
Donc ça veut dire si on a besoin de vous et qu'on est sympathique, vous
quand c'est sympathique, moi j'ai un peu comme ça, quand les gens sont agréables et sympathiques, pourquoi pas?
On fait une raclette jeudi soir, vous
Ah bah oui, ça serait avec plaisir. Mais je termine avec un cadeau pour chacun d'entre vous. Pour vous, Claude Lelouch, je vous offre La guerre de Louise de 14 à 21 de Sylvie Arnoux aux éditions Entre-temps Éditions. En fait, c'est l'itinéraire... c'est le carnet en fait de cette Louise qui a été découvert. Elle nous raconte à travers des textes et des chansons la vie qu'elle a menée pendant cette année de guerre, parce que de 14 à 21, voilà, cette période-là était un petit peu compliquée pour elle. Elle a été déportée civile en Allemagne et c'est tout son itinéraire qui est retracé par Sylvie Arnoux et c'est absolument passionnant. Et puis pour vous, Chantal, forcément amoureuse de Tintin, ben je vous offre Tintin au pays des Soviets chez Casterman.
T'aurais pu offrir dictionnaire amoureux de
Tintin. Oui,
de
mais je l'avais pas.
Par Albert
pas
Algou.
Et alors, voyez-vous, celui-là, je l'ai en noir et blanc et ils l'ont colorié.
Bon,
non. Justement, et vous avez raison de préciser, Chantal, c'est que Tintin au pays des Soviets, c'est le premier album d'Hergé. Il avait 21 ans tout juste. Au départ, on est un peu étonné parce que Tintin et Milou n'ont pas absolument les traits qu'on leur connaît aujourd'hui. Eh bien, il a été mis en couleur pour la première fois et voilà, c'est pour vous.
Merci beaucoup.
Une question à propos justement de carnet, en l'occurrence, en pensant à ces carnets particulièrement fort et émouvant que Leïla vient de vous offrir. Est-ce que des biopics ou une histoire vraie, l'histoire d'une vie, ce que vous avez déjà fait, évidemment, vous pourrez vous attirer? Si oui, vous aimeriez filmer la vie de quel personnage ou personnalité?
J'aimerais filmer la vie de ma mère, qui a été une vraie héroïne. L'occupation, elle a été recherchée pendant 2 ans par la Gestapo et son histoire est absolument incroyable. L'histoire de cette femme qui voulait absolument retrouver mon père qui était en Algérie et elle a fait preuve d'inconscience, d'héroïsme. Enfin, vraiment, j'aimerais bien un jour faire un hommage à ma mère. Voilà.
Vous devriez lire le nouveau roman de Philippe Labro, qui est justement toute une enquête qu'il a réalisée sur la vie de sa mère et que nous allons recevoir la semaine prochaine. Ma mémoire et ma vue sont bonnes. Voici le retour de Thomas Fersen qui nous offre une reprise. Thomas Fersen, évidemment, sur son album, il y a, je vais le retrouver, le coup de queue de vache.
Depuis que j'ai eu mon accident, j'ai perdu un peu de mon panache. Et puis j'ai perdu toutes mes dents, j'ai pris un coup de queue de vache.
Tout à l'heure, il a chanté le Big Bang.
Avant, je m'occupais des cochons. Et ma belle-mère m'appelait la souillon.
Autre animal prévu, le lièvre, dans cet album.
Ce n'est pas un lièvre qui court vers sa liberté et qu'on ne peut pas arrêter. Non, nous sommes juste.
Et le voici donc avec une reprise qui nous offre celle de Bella Ciao, Thomas Fersen, c'est en live dans la bande originale.
Sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, una mattina mi risanzegliato e ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore. Passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, porto per la libertà.
Ciao, on va rappeler que cette chanson est une chanson de résistance des Italiens contre les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bella Ciao, repris par Thomas Fersen, accompagné par... Alors, est-ce que c'est Anne ou Aurélie ? C'est Anne, d'accord, parce que Aurélie est en grève, là, sur le côté. Donc, accompagné par Anne au violon et par Raphaël au banjo. Et ils sont en tournée, je rappelle, ce quatuor à cordes, ce banjo et Thomas Fersen, notamment le 15 mars, mercredi prochain à Roubaix, et du 21 mars au 1er avril, ça sera au Théâtre de l'Œuvre. Merci mille fois, en tout cas, d'être Merci. Venu, d'avoir répondu à notre invitation. Avant de se quitter, des excuses peut-être à présenter, Daniel Morin.
Désolé déjà pour nos auditeurs linguisto intégristes qui nous ont appelés pour demander que Thomas Fersen et son français impeccable soient présentateurs de l'émission. Désolé, il m'a dit trop bien le français. Oui, ça nous a été envoyé ce petit texto par la direction. Non, ça ferait fuir les jeunes. On garde Nagui. Désolé pour Nicolas Cantelou et Laurent Gérard. Nagui, le pharaon de l'imitation, a encore frappé après son premier tube.
Oh, et la bicyclette.
Ah oui, Steve, m'entends, tout le monde l'a reconnu, mais il faut le préciser quand même. Son triomphe avec...
Ah bah... À Bourville.
Oh oui, à Bourville, oui. Son César pour le bruit du beurre qui fond.
Oh l'angoisse.
Oui. Il est encore allé plus loin aujourd'hui, ladies and gentlemen, avec son futur hit. La chèvre, oui, il nous a fait la chèvre tout à l'heure en essayant de dire mais. Et enfin, désolé pour les magasins Picard qui vont recevoir une foule d'auditeurs distraits qui vont demander à parler à un certain Hervé pour lui acheter des inédits de Claude Ledoux. Ça n'avait rien à voir.
Ça sera le 4 avril que nous recevons Philippe Labreau pour son roman Ma mère, c'est inconnu. Voilà la précision que je voulais rajouter. Merci mille fois d'être venu, Chantal Latsou, Claude Ledoux.
Merci, merci.
Ça sort ce mercredi, ça s'appelle Chacun sa vie et c'est un casting que je n'ai pas le temps de vous donner, mais qui est impressionnant.
Il faut supprimer l'émission qui vient.
Cette scène cultissime de Johnny, voilà. Faut pas le louper juste pour ce Johnny là qui est absolument incroyable et à qui évidemment on souhaite une très bonne santé. Pardon pour ce retard, Philippe Bertrand.
Non mais vas-y pour le casting, c'est bon.
Non.
Tu n'as pas bossé toi.
Allez bon, un petit coup de Johnny, Philippe.
Non pas aujourd'hui.
Ah bon, d'accord, okay.
Non mais lundi 13, Claude Lelouch, ça y a rien de très étonnant. Mais alors mars 2017, si vous additionnez mars, c'est le troisième mois de l'année.
Ouais.
Donc
ouais.
2017, 2, 1, 7, ça fait 10 et 3, 13. Donc prochain passage de Claude, le 13 septembre 2020, sauf que ça tombe un dimanche. Le 13 août 2021, impossible, car c'est encore la grille des programmes d'été. Donc la prochaine date probable serait le 13 juin 2023.
Ok, voilà. C'est noté. Voilà. C'est noté.
Salut les amis.
Merci, salut. Monsieur le professeur de mathématiques. Ciao.